Place Info.
Bonjour Vincent Villeminot.
Bonjour.
Nous sommes L'Étincelle, votre dernier roman paru chez Pocket Jeunesse et le coup de cœur de Noam. Et bonjour Noam.
Bonjour.
Tu as 17 ans et tu as été complètement emporté par ce roman d'anticipation. Tu nous expliques pourquoi ?
Donc ce roman, c'est un roman d'anticipation et il est intéressant pour la vision du futur qu'il présente, puisque c'est un roman qui va alterner dans les temporalités. Et donc en 2025, on a plusieurs jeunes adultes qui sont complètement en fait révoltés par le fonctionnement de la société dans laquelle ils vivent et qui décident de partir en fait. Et un manuscrit publié quelques années auparavant leur sert de manifeste. Ils vont s'installer dans la forêt où ils créeront un monde meilleur. Et en 2061, on a une nouvelle temporalité qu'on va suivre également avec trois jeunes enfants enlevés par des braconniers.
Alors Vincent Villeminot, votre roman est une sorte de puzzle futuriste, comme l'a annoncé Noam. Forcément, il suscite quelques questions.
Oui. Alors, ma première question, ça serait d'où vous est venue l'envie d'écrire un roman d'anticipation ?
C'est pas le premier que j'écris. J'aime bien l'anticipation à quelques années, parce que ça permet de parler du présent. Enfin, on écrit toujours sur le futur pour parler du présent en réalité, je crois. Et ça permet de parler du présent de façon incarnée, mais sans être lourd et sans être non plus trop démonstratif. Voilà, là c'est peut-être le roman qui va le plus loin dans l'anticipation, parce que l'idée de fond de ce roman, c'est que deviennent les révolutions, que deviennent les utopies. Et j'aime beaucoup les romans un peu romantiques de révolution, etc. Mais je me pose toujours la question, que deviennent ceux qui renversent la dictature 30 ans après ? Est-ce qu'ils sont devenus les mêmes que ceux qui renversait. Voilà.
Mais d'ailleurs, ce roman, il résonne fort avec l'actualité, avec la mobilisation des jeunes pour le climat.
Oui, il résonne. C'est jamais prévu, mais...
C'était pas anticipé.
Non, moi je lis la presse tous les jours, pendant une heure, donc on chope des choses dans l'air du temps. Il résonne avec ça, mais il résonne aussi, enfin... Je raconte le début de la crise comme une guerre Iran-Arabie Saoudite. On n'en est pas loin ces jours-ci, vu ce qui se passe au Yémen. Donc, voilà, il y a des choses qui sont dans l'air, que les journalistes perçoivent, mais aussi que les écrivains perçoivent et qui mettent dans leurs bouquins. Après, certaines choses résonnent, d'autres tombent complètement à plat et on peut pas le savoir. Moi, j'ai commencé d'écrire ce bouquin il y a 3 ans, quoi. Donc, c'était pas encore cette mobilisation.
Mais justement, pour vous, ces jeunes qui se mobilisent, ça pourrait aller jusque-là, jusqu'à ce retrait dans un endroit comme ça, isolé, dans une forêt ?
Je crois pas que ce soit le désir qui manifeste. Les jeunes gens là qui manifestent, peut-être parce qu'ils sont un peu plus jeunes, ils demandent aux adultes, laissez-nous un monde habitable. Alors que les jeunes gens du livre disent, on ne changera pas le monde, donc on va aller habiter dans ses marges. Parce qu'on est convaincu que c'est en vivant ensemble dans ces marges que quelque chose de neuf va se créer.
Et donc, pour ce roman, pour Nous sommes l'étincelle, est-ce que vous avez eu certaines sources d'inspiration en termes de romans, de littérature, ou alors même sources d'inspiration peut-être plus dans la réalité, dans ce qui se passe ?
Alors, la réalité, certainement. Moi, je me nourris beaucoup d'actualité. Je me nourris aussi de voyages, de balades. En l'occurrence, ce qui est le point déclencheur de ce roman, c'est un article que m'a envoyé un ami éditeur, qui était un article paru dans un quotidien français, un article d'un géographe qui racontait à quoi ressemblerait la France en 2050 si elle était convertie au véganisme. Et cet article parlait notamment de la disparition des prairies d'élevage et de l'émergence peut-être d'une grande forêt au centre de la France. C'est l'idée de cette grande forêt qui a déclenché l'envie d'assembler des choses qui jusque-là étaient des bouts de romans que j'écrivais sans savoir du tout où j'allais. Et voilà, j'avais mon cadre, et d'ailleurs on commence en 2061, donc à la fin de l'histoire, mais dans cette grande forêt.
Quand on dit forêt, on pense forcément aux contes, à la forêt brocéliande, etc. Mais là, c'est la forêt sauvage.
C'est la forêt sauvage qui est aussi celle des contes, puisque au moment où les contes sont écrits, la France est beaucoup plus forestière que la nôtre. Et ce qui nous apparaît comme des figures effrayantes, enfin les loups, etc. Il y en a à l'époque. Mais là, en l'occurrence, c'est une forêt sauvage. C'est une forêt qui revient petit à petit. Un état moins cultivé que n'est le sous-bois aujourd'hui, puisque c'est une forêt où les hommes, depuis une vingtaine d'années, n'ont pas le droit de rentrer. Donc c'est un cadre formidable. Tu me demandais quelles inspirations avaient pu me guider. clairement, la première scène, moi, je suis dans le livre de la jungle. Voilà. Et je voulais qu'on ait cette impression de jungle au cœur d'un territoire, mais d'un territoire très situé. L'abbaye qui est au cœur de la forêt, elle existe, je sais où elle est. Les différentes clairières, c'est des lieux que j'ai repérés où je me suis demandé dans 30 ans si la forêt avait regagné, qu'est-ce qui resterait là. Donc, faut toujours incarner les choses, me semble-t-il, pour justement que l'histoire puisse se déployer avec des contraintes, celles du réel.
La narration dans le roman, elle est tout à fait morcelée en fait, c'est-à-dire qu'on saute d'époque en époque et de personnage en personnage. Et c'était vraiment un véritable souhait de faire un roman qui comme ça bouge dans le temps et dans l'espace et entre les personnages.
C'était un souhait de faire un roman qui dure sur 30 ans. Après, comment ça allait se raconter? J'ai fait 8 versions de ce roman. J'ai failli tuer mon éditeur. mais j'ai raconté l'histoire dans l'ordre chronologique, dans un ordre chronologique parfaitement inversé. J'ai essayé les deux. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait des choses qui résonnaient et que c'était plus intéressant de faire des allers-retours pour être avec chaque personnage sur cette question un peu terrifiante. Qu'est-ce qui reste de ce qu'on a essayé de faire? Donc, il faut qu'on, régulièrement, on retrouve un personnage au moment de son élan, de son espoir initial, de son étincelle, et puis, 10, 20, 30 ans plus tard, ou 5 jours plus tard, pour les plus jeunes d'entre eux, ceux qui arrivent à la fin.
On n'a pas reparlé du discours qui intervient parfois entre les pages du roman. Ce discours, il est signé Thomas F.
C'est un jeune universitaire anglais qui a 23 ans, et qui publie ça en 2022, donc ça ne saurait tarder. Voilà, c'est un manifeste que j'ai inventé, que j'ai écrit un peu avec l'aide de mon fils, qui est étudiant en sciences politiques et qui a 23 ans. mais clairement, Thomas, c'est une référence à Thomas More, hein, à l'utopie. Et clairement, ça m'intéressait de voir ce qu'on allait faire de cette utopie. On est dans une époque où la littérature jeunesse adore les dystopies. C'est parfois très flou la limite entre une utopie et une dystopie. Et une utopie qui tourne au pire, est-ce que c'est une dystopie ou est-ce qu'il reste quelque chose de la générosité, de l'élan initial? Voilà, c'est ma question.
Alors finalement, est-ce que justement être une étincelle, c'est pas juste une utopie politique?
C'est possible. C'est possible que ce soit une utopie. C'est possible que la politique ait besoin d'utopie. C'est possible que quand on lance quelque chose, il soit impossible d'en faire déjà le bilan. Et je pense qu'on a tendance très vite à faire des bilans avant de laisser le temps transformer les choses. Moi, en tout cas, comme auteur qui m'adresse d'abord à des adolescents, je ne veux pas leur tenir le discours « tout a été essayé et tout a raté ». Voilà. Essayons d'autres choses, essayez d'autres choses sans nous. J'ai été très frappé au moment d'un mouvement qui s'est appelé « Nuit debout » de voir à quel point les adultes plus âgés comme moi semblait soucieux d'encadrer les jeunes pour leur dire comment il fallait faire. Et j'aime bien l'idée de laisser à mes personnages de 20 ans les clés et puis de les laisser se débrouiller sans qu'il y ait des plus grands pour les guider. Après tout, dans toutes les grandes époques de changement et de révolution, si vous regardez l'âge des dirigeants, ils sont incroyablement jeunes. Regardez l'âge, mais que ce soit des révolutionnaires de 1789 ou du premier gouvernement issu de la résistance en 44, ils sont incroyablement jeunes et ils créent quelque chose dont les conséquences vont parfois être terrifiantes et désastreuses, mais aussi dont les conséquences vont parfois être incroyablement durables. Voilà, ça m'intéresse.
Et ma dernière question, ce serait de savoir si avec cette lecture, avec ce roman, vous avez des messages particuliers à faire passer au lecteur? Je ne sais pas qu'il s'agisse d'un adolescent ou d'un adulte. Est-ce qu'il y a un message qui, selon vous, en tout cas, traverse le papier?
Je rigole toujours en disant si j'ai un message à faire passer, j'envoie un mail, j'écris pas un livre. Je crois pas que ce roman ait de message, et bien malin d'ailleurs, qui peut me dire voilà ce qu'on peut conclure de ce mouvement de Do Not Count On Us ou du mouvement qui l'a suivi. Est-ce que c'est positif ou négatif? Non, il n'y a pas de message, mais il y a Un roman, c'est toujours une sorte d'exploration, de laboratoire. Je mets des personnages dans une situation, je vois s'ils sont suffisamment vivants et incarnés, ils vont se débrouiller par eux-mêmes, et je les regarde faire et agir. Quelle conclusion en tirer? Je n'ai pas forcément envie de tirer les conclusions, ils sont pas tous morts, donc il n'y a pas encore tout à tirer, mais au moins on les a accompagnés et on les a vus essayer de faire un truc.
Et dans ces personnages que vous avez accompagnés, est-ce qu'il y en a un que vous préférez?
Théoriquement, je me l'interdis, oui, il y en a un que j'adore, c'est la houle.
Ah oui.
D'une part, c'est un personnage qui vit jusqu'au bout, là je spoil, qui lui va vivre jusqu'au bout du roman, et donc qui vit toute l'aventure, et puis qui vient de lieux très différents, puis c'est un personnage que j'ai pu croiser, il commence comme hooligans aux abords du Parc des Princes, moi, c'est là, adolescent, que j'ai découvert aussi ce que c'était que la violence urbaine, hein, dans les tribunes du Parc des Princes. Et voilà, il y a des choses que je comprends de lui et qui me bouleversent dans ce qu'il devient.
Bien sûr, est vraiment bouleversant, ce personnage. Noam, on va lire un extrait, tu nous donnes un peu le contexte.
Oui, bien sûr, donc c'est un extrait qui est situé donc dans le début du roman, où c'est une discussion entre Antigone, Xavier et la houle, et Antigone va expliquer justement à la houle le plan partir dans la forêt.
Alors on y va.
Dimanche prochain, on va se barrer, tous ceux qui voudront.
Ces paroles lui échappent, ça se voit, en dépit de toute prudence et de sa volonté même.
On va quitter les villes, les facs, on va partir en bagnole, en camion, en stop, et on ira s'installer dans la campagne.
Dans des endroits qu'on a achetés ou qu'on achètera, des hectares de forêt. Ils ne pourront pas nous chasser, on sera chez nous, on inventera une autre vie.
Ses yeux brillent, l'intensité de ses prunelles grises, plomb en fusion suppliante, presque insupportable, le clou sur place. Il a peur de ce qu'elle lui annonce, de ce qu'il devine, d'une rupture irrémédiable, tragique, d'un échec.
Eh bien, merci. Vincent Villomino, je sais que vous n'avez pas de portable. Seriez-vous un homme de ces bois, une étincelle, vous aussi?
J'aime bien vivre dans les bois et j'aime bien vivre en retrait du monde, oui.
Alors juste, est-ce que vous avez une question vous-même pour Noam, Vincent Villomino?
La question qui m'intéresse toujours, c'est est-ce que tu sors de cette lecture-là différent?
Oui, bien sûr. Parce que je pense que dans Nous sommes l'étincelle, c'est le cas dans d'autres romans, mais surtout dans celui-ci, je le considère vraiment comme un voyage, en fait. Un voyage à travers un univers, et des époques, et des personnages. Et on les suit, on les voit grandir, on les voit se développer. Et on en ressort, on a l'impression d'avoir été avec eux. Dans chaque épreuve, dans chaque moment, on a l'impression d'avoir été avec eux. Et on en ressort, et comme vous le disiez, il n'y a peut-être pas de message à tirer, mais peut-être qu'il y a peut-être un bilan à faire à la fin, et de se dire... Voilà ce qu'ils ont voulu faire et voilà ce que ça a donné en quelque sorte, même si tous les personnages ne sont pas morts. Et on en ressort grandi parce que voilà, on fait ce bilan et on se dit, eh bien, on a quand même été jusque-là.
Merci beaucoup. C'est pour ça que j'écris. C'est pour qu'on fasse le voyage avec eux. Et moi, si je peux me permettre de te conseiller un bouquin, c'est un bouquin qui est l'inverse de Nous sommes l'étincelle, c'est-à-dire ça se déroule sur 15 jours. C'est l'histoire d'une grève dans l'Amérique des années 30, un livre de John Steinbeck qui s'appelle En un combat douteux. Et c'est l'histoire de une centaine de cueilleurs de pommes qui décident un jour, parce que on a baissé leur salaire et augmenté leur charge, de s'arrêter. Et de deux types qui viennent organiser une grève avec ces cueilleurs de pommes. C'est un livre c'est pas le plus connu de John Steinbeck. Moi, c'est celui qui me fait pleurer à chaque fois. Et quand je dis c'est l'inverse de Nous sommes l'étincelle, c'est que ça se déroule sur un temps très bref. Il y a un tout petit nombre de personnages. C'est extraordinairement situé dans un endroit. Et tu ne sais pas ce que ça va devenir. Parce que, voilà, c'est ces 15 jours qui déclenchent quelque chose. Comment ça va rester chez les gens? Mais c'est incroyablement puissant. Et puis, c'est l'écriture de Steinbeck qui est... on est d'accord pour dire que c'est un des 10 plus grands auteurs, ça engage rien, 10 plus grands auteurs du 20e. Moi, je le mets plus haut.
Eh bien, merci Vincent Villomino et merci à toi Noam. À la semaine prochaine, d'ici là.
Vincent Villomino,
Noam
et moi, nous vous souhaitons de belles lectures à tous.
Merci beaucoup.
Et plein d'étincelles dans les yeux, bien sûr. Ouais.